Fréquence banane, il est 18h.
Fréquence banane, les infos.
Un cyclone au Sri Lanka et une tempête exceptionnelle en Indonésie, en Thaïlande et en Malaisie ont provoqué des pluies torrentielles et d'importantes inondations qui ont fait plus de 1100 morts, selon un nouveau bilan encore provisoire car les disparus se comptent également par centaines. Lundi, la police australienne a annoncé avoir inculpé 4 hommes à Sydney, soupçonnés d'appartenir à un réseau partageant du contenu pédopornographique satanique. La police évoque des milliers de vidéos mettant en scène des violences sur des enfants âgés de 5 à 12 ans, ainsi que des actes de zoophilie. La commissaire en charge de l'affaire a annoncé que le partage de matériel pédopornographique est malheureusement en augmentation. Suisse. Ce dimanche, l'initiative pour un service citoyen pour tous et toutes n'a convaincu que 16% de l'électorat suisse et a été rejetée dans l'ensemble des cantons. Les refus aussi entre 79% à Bâle-Ville et jusqu'à 87% dans le canton de Vaud. La carte des résultats, uniformément teintée de rouge, illustre une rare unanimité. L'objet était massivement repoussé, que ce soit en ville ou à la campagne. Et on le rappelle, l'initiative visa à étendre l'obligation de servir à toute personne de nationalité suisse, homme et femme. Après plusieurs jours d'une opération humanitaire coordonnée entre MSF, les autorités jordaniennes et suisses, 13 enfants gazaouis, grièvement blessés ou malades, sont arrivés vendredi dans différents cantons. La mission a commencé à la frontière entre la Palestine et la Jordanie, et si 13 enfants étaient évacués cette semaine, ils sont encore des milliers à attendre des prises en charge. MSF estime à 16 500 le nombre de personnes nécessitant une évacuation médicale urgente à Gaza. Et près de 100 sont déjà décédés, faute d'avoir pu partir, d'après la coordinatrice de projet à Médecins sans frontières. Un peu plus de légèreté, la prothèse capillaire gagne du terrain face à la calvitie en Suisse. Moins coûteuse que les implants, plus flexible et désormais très réaliste, elle séduit une clientèle toujours plus jeune. Les instituts observent une forte hausse de la demande, amplifiée par les réseaux sociaux, où les transformations spectaculaires rencontrent un succès croissant.
Fréquence banane, la météo.
Aujourd'hui, il fait froid sur Chavannes-Prérenan, entre 0 et 6 degrés, un temps sec et bien gris. Demain, quelques pluies possibles, mais faibles, avec des températures entre 3 et 6 degrés. Jeudi reste couvert mais calme, autour de 3 à 7 degrés. La fin de semaine sera plus agréable. Vendredi et samedi apportent quelques éclaircies, même si l'air reste froid, entre 1 et 7 degrés. Et dimanche, légère remontée jusqu'à 8 degrés sous un ciel nuageux. En bref, une semaine fraîche, parfois humide, avec quelques belles fenêtres de lumière. Gardez les manteaux.
18h-19h, Micropolis.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue pour ce Micropolis du 2 décembre, présenté comme d'habitude les mardis par votre fidèle équipe Banani Banana. On espère vous divertir à fond ce soir en vous parlant de voyages, d'aventures et peut-être que vous rêverez davantage de vacances en contrées qui vous sont encore inconnues. Commençons par un petit tour de table. En tant que journaliste chroniqueuse, on retrouve Amélie. Comment ça va, Amélie ?
Mais je vais super bien, merci Dani.
Qui de mieux pour compléter notre équipe journalistique que Chloé ? Ton ressenti, Chloé, avant d'attaquer ce nouvel épisode du Micropolis ?
Merci déjà pour le compliment. Et oui, ça va super. On a hâte de profiter de cette heure tous ensemble.
On a aussi Clélia à la tech. Comment elle va, Clélia, derrière tous ces appareils ?
Ça va, je crois que j'aime bien cette place. Je suis tranquille.
D'ailleurs, aujourd'hui, on a des invités, Maximilien et Bastien. On vous en reparlera dans quelques instants. Comment vous allez, les deux ?
Bah ça va super, on est très content d'être là, merci pour l'invitation.
On est un peu émus, j'avoue.
Merci à vous d'être venus. Et voilà, finalement il y a moi, Dani, votre animateur du jour. Comment je vais ? Très bien, merci. Je suis plus qu'impatient de lancer le sujet du jour. Mais pour l'instant, on se contentera des rythmiques entraînantes que nous propose le groupe Deluxe et Youthstar avec leur titre Daniel. Comme mentionné il y a quelques minutes, nous sommes en présence de nos deux invités, Maximilien et Bastien. Et c'est avec un grand plaisir qu'on va découvrir l'incroyable voyage qu'ils ont entrepris dans cette rubrique interview et témoignage d'une aventure assez exceptionnelle. Du coup, chers invités, on va vous laisser vous présenter et nous expliquer en quelques mots l'idée du voyage et ce qui vous a motivé avant qu'on rentre pleinement dans votre histoire.
Alors merci beaucoup, je vais commencer, donc je m'appelle Maximilien, j'ai fait un bachelor en sciences de la vie, ESV, Et puis j'ai pris une année de césure complète l'année passée, où j'ai fait 6 mois en Allemagne pour travailler et financer le voyage. Et ensuite, en attendant mon master qui vient de commencer en septembre, j'avais 6 mois de trou et on s'est dit avec Bastien qu'on pourrait faire à ce moment-là un grand voyage tous les deux. Donc c'est comme ça qu'on est partis ensemble.
Et moi je m'appelle Bastien, je suis en master d'ELEC, j'ai fait mon bachelor à l'EPFL, j'ai commencé mon master à l'EPFL aussi. Et après 4 ans de PFL, je pense que je peux dire que j'étais un peu saturé et j'avais besoin d'autres horizons. Et voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de partir ensemble avec Max.
Ok. Eh bien, pour continuer sur cette lancée, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement votre ou vos parcours, quelles ont été les étapes aussi de votre voyage?
Alors, le voyage, on l'a structuré en 2 parties. On s'est dit que c'était cool d'avoir un élément vraiment structurant, c'est-à-dire un stage en fait. On a fait 3 mois de stage en tout quand on était en Inde. Et pour avoir ça de fixé, aussi avoir un achievement personnel de ce point de vue-là. Et on voulait pour ça un travail qui ait du sens, qui soit pas juste du volunteering pour montrer, prendre des photos avec des enfants au bout du monde. C'est pas ce qui nous intéressait, on voulait vraiment un truc qui ait du sens, qui utilise nos compétences qu'on a et qu'on soit pas une charge pour la société dans laquelle on va s'intégrer. Et pour ça, il y a une super asso à l'EPFL, dont on peut faire la pub aussi, qui s'appelle Ingénieur du Monde et qui est exactement là pour faire ce lien. Donc, on a trouvé sur leur site une offre de stage chez Selco, la fondation Selco en Inde, chez qui on est parti. Et Bastien a eu en plus une bourse grâce à eux, donc c'est super cool. Donc, en tout, on a fait 1 mois d'abord de voyage dans le nord de l'Inde, en particulier dans Rajasthan, qui est l'état le plus touristique, on va dire, et le plus beau, je pense, d'Inde. Et puis d'autres états du nord de l'Inde. Et ensuite, on a fait 3 mois à Bangalore, qui est un peu la grande mégapole du sud de l'Inde. Très grande ville, très forte économiquement. Et là, on a fait notre stage. Donc, on a fait en tout 4 mois dans le sous-continent indien, avec un petit bout au Sri Lanka aussi, pour 10 jours, ou peut-être 2 semaines. Et ensuite, Bastien est resté en Inde. Sa copine est venue pour le rejoindre. Et moi, j'avais déjà prévu de le faire, évidemment, de rentrer jusqu'à Paris en transport en commun, dans la limite du possible, évidemment. Et donc, voilà, en passant par l'Asie centrale, le Caucase, les Balkans, la Turquie, évidemment. On pourra en reparler plus profondément. Mais voilà comment s'est structuré le voyage, globalement.
Petit mot. Ok. Alors.
Ah oui, et je peux ajouter aussi que Bastien m'a rejoint à Istanbul aussi. Ouais. Donc en fait, j'ai fait jusqu'à Istanbul tout seul et après il m'a rejoint.
Ok, super. Ben, continuons directement en parlant justement de cette étape en Inde. Racontez-nous un peu votre arrivée en Inde. Vous venez de passer quelques heures en avion. Quand vous sortiez de l'aéroport, j'imagine que l'ambiance est assez différente de ce qu'on a l'habitude en Europe. Quelles ont été vos premières impressions?
Alors la première impression, c'est du trop. Il y a trop de tout, il y a trop de bruit, il y a trop de gens. Ça sent 1000 choses différentes, il se passe 1000 choses d'incroyables autour de soi et on est complètement saturé quoi. Mais alors on sait plus où mettre de l'œil, on sait plus quoi penser. Les gens nous regardent, on sait pas trop ce qu'ils pensent de nous. On sait pas trop d'ailleurs quelle est leur histoire, parce qu'en vrai on nous apprend pas trop l'histoire de l'Inde à l'école. On connaît pas leur culture, on sait pas vraiment grand chose de leur religion à ce moment là et en fait on est complètement perdu en fait. On a tellement de stéréotypes de l'Inde quand on est en Europe, mais ils tiennent plus la route quand on est sur place. Et on rentrait à la maison les premiers jours et on était complètement épuisé. On avait l'impression d'avoir vécu plusieurs journées en une seule journée. C'était fou quoi, on va dans la rue et t'as des vaches, t'as des singes, il y a des animaux, des tuk-tuks qui klaxonnent, enfin c'est dingue.
Et je pourrais rajouter aussi que ce qui joue là-dedans, c'est qu'on a décidé de faire un voyage qui était parti, enfin on a décidé vraiment de partir dans le côté aventure, c'est-à-dire de pas rester dans la zone de confort et d'aller vraiment partager la vie des gens dans la rue, etc., se balader. Et du coup ça a créé un choc culturel qui était particulièrement fort. De ce point de vue-là.
Ouais, j'imagine. Vous avez fait plusieurs mois en Inde, du coup, comme vous l'avez dit. Vous avez dû découvrir énormément de choses, au-delà même de, je pense, de la diversité de ce qu'il y avait à un endroit. Je pense que vous avez dû beaucoup bouger. Malgré tout, est-ce que vous avez profité du temps plus pour vous poser et vous imprégner de la culture et vous fondre dans la vie locale, ou est-ce qu'au contraire, le temps que vous aviez à disposition, vous l'avez vraiment utilisé pour partir dans tous les coins et aller voir un peu tout l'espace que l'Inde propose?
Alors déjà, l'Inde, c'est gigantesque. Quand on arrive, on se rend compte qu'en fait, c'est des milliards de gens qui sont là et une culture extrêmement variée. Donc on a vu vraiment une infime partie de l'Inde. Mais oui, on s'est beaucoup baladé au début. Mais ensuite, ce qui a été vraiment génial, c'est pouvoir se poser et d'avoir une vie que des travailleurs indiens pourraient avoir aussi. Donc on a eu des amis, on a eu nos routines, on avait les endroits où on allait manger, nos habitudes. Et c'était très chouette de se construire une vie alternative dans un autre pays.
Ouais. Bah justement, c'est une question que je me posais aussi. En termes de sociabilité, comment ça s'est passé? Vous êtes fait des amis, c'était compliqué, il y avait la barrière de la langue, vous savez pas non plus exactement, j'imagine, où les places sont sereines, ou est-ce que vous avez pas trop le droit de mettre les pieds. Donc, comment ça s'est passé à ce niveau-là?
Je dirais que c'est un pays qui est déjà très accueillant pour les étrangers déjà, mais très très accueillant, c'est-à-dire qu'on a reçu, vraiment un intérêt pour notre, pour nous ici. Les gens se demandaient beaucoup ce qu'on faisait en Inde, qu'est-ce qu'on allait voir, et on a reçu énormément de générosité de la part des gens qui nous accueillent chez eux, et donc dans ce sens-là, les choses étaient très simples, c'est-à-dire que les gens avaient un biais sur nous qui était extrêmement positif, et partout où on allait, en fait, ça nous aidait, parce qu'on pouvait se balader dans la rue et avoir des soucis et demander à quelqu'un, et la personne était plus qu'heureuse de nous aider. Pour faire des amis aussi, en fait, les gens parlent beaucoup anglais, surtout dans les gens qui sont confrontés aux touristes, parce que en général, c'est des gens qui sont assez éduqués et qui parlent anglais aussi. Donc, dans ce sens-là, ça n'a pas été très difficile pour nous. Mais c'est vrai que si on avait été dans des zones très très rurales, je pense que ça aurait été très très compliqué.
Oui, j'imagine aussi. Mais du coup, vous avez quand même profité d'aller dans les zones rurales.
Alors oui, bon déjà du coup, l'anglais c'est la langue officielle, c'est une des langues officielles de l'Inde, donc c'est pour ça que beaucoup de gens la parlent, en raison de la colonisation évidemment. Mais donc en fait, on a vu quand même, on est loin d'avoir vu toute l'Inde parce que encore une fois c'est gigantesque. Enfin je veux dire, même il y avait donc une guerre avec le Pakistan quand on était là-bas, et nous on était à Bangalore dans le sud. Et je me souviens de mes parents qui me demandent « Ah, est-ce que ça va, vous ? On voit qu'il y a des bombardements et tout, c'est compliqué. » Et en fait, je regarde sur la carte et je leur dis « Mais en fait, je suis plus loin de la guerre que vous de Kiev, et qui est bombardé actuellement. » Donc en fait, les échelles de grandeur sont juste énormes. Donc, comme on l'a dit, le pays est extrêmement divers. Bastien, il a vu le Ladakh dans le nord, dans l'Himalaya, dont il pourrait parler. On a vu plein de gens qui venaient du nord-est, qui est près du Myanmar, qui est très très différent. Le sud, enfin genre, tout change. Le climat, rien à voir. Rien que la peau des gens, je veux dire, au nord-ouest, on dirait des Iraniens, au nord-est, c'est plutôt Asie du Sud-Est, au sud, des gens peuvent avoir la peau très foncée, donc c'est juste un peu marrant. À Bangalore, c'était un peu cosmopolite de ce point de vue-là, on voit des gens qui ont vraiment une origine très très divers, qui parlent des langues qui n'ont rien à voir, qui sont même pas de la même famille, qui sont habitués à des nourritures qui sont très très différentes, donc c'est juste fou d'avoir cette... on a l'impression que c'est multinational, en fait, dans un même pays. Et donc on a eu la chance de voir quelques extraits, quelques perles de ce pays, avec du coup le nord qui était très différent du sud, et avec ces gens qu'on a connus dans le sud, qui étaient particulièrement de partout. Et on a pu se familiariser avec quelques cultures, quelques langues, mais c'était très compliqué de ce point de vue-là quand même. Et on a eu chacun des moments, je pense, où on était plus en contact avec l'Inde rurale. Notamment, il y a une région qui s'appelle le Chakawati, dans le Rajasthan au nord, où on était vraiment... C'était pas très touristique, c'était très beau, il y avait des très beaux palais, etc. à visiter, anciens. Mais on était vraiment... Il n'y avait pas un touriste, quoi. On était tout seul avec au milieu d'Indiens, etc. Très rural du nord, un endroit qui est très pauvre, donc c'était assez marquant de voir ça. Et bon, personnellement, après, avec le travail, je suis parti... Enfin, le stage, je suis parti quelques jours... dans la campagne du Karnataka, qui est l'un des États du Sud, où Bangalore se trouve. Mais la partie vraiment rurale, et là, voilà, c'est que des gens qui l'agriculture à la main, à la machette, enfin ou à la faucille, des vaches partout, mais pour l'agriculture, on voit une agriculture qui est vraiment pas du tout mécanisée, c'est les femmes qui font 90% du boulot, en tout cas des travaux qui sont très durs. Enfin, on voit en fait un peu ce qu'on imagine de la pauvreté en Europe. On la voit vraiment, on la vit quoi, sur les routes, sur les traverses, les gens qu'on croise, et c'est pas comme si on était avec une vitrine, c'est qu'on interagit avec ces gens, ils nous parlent, donc c'est, je trouve que le vivre et ne pas juste le voir en photo sur un bouquin de géographie, il y a vraiment une différence, et ça m'a beaucoup marqué, et les gens étaient forcément absolument adorables. Il y a évidemment ce côté de, on sait qu'on a beau communiquer, on pourra jamais vraiment complètement se comprendre. Nos cultures sont tellement différentes qu'on a beau faire tout l'effort du monde, on est avec un cœur très ouvert, je pense, et essayer de s'ouvrir le plus possible aux autres, et malgré tout, ça, voilà, ça marche pas toujours. Et donc parfois, il y a un peu des, pas des conflits, mais des choses qui clochent, où t'es là, bah, en fait, on se comprend pas, genre. Mais, enfin, on a mis l'exemple de ces trucs-là, mais voilà. Donc c'est, on a passé une super expérience de ce point de vue-là, et je pense qu'on a eu raison de faire cet effort, d'aller le plus possible voir l'Inde un peu authentique, un peu en dehors des zones touristiques et mondialisées, et je pense que c'était une très bonne expérience.
Ok. Après ça, petite étape au Sri Lanka, on va pas trop s'y attarder faute de temps, mais est-ce que vous pouvez nous décrire le Sri Lanka en quelques mots et aussi les différences avec l'Inde du Sud?
Ouais, bien sûr. Bah, en fait, c'est des cultures qui sont très proches l'une de l'autre, d'origine, enfin, culture tamile, mais c'est un pays qui est très, qui a une, vraiment une nature luxuriante, et c'est incroyable parce qu'il y a des espèces de fruits, d'animaux qui sont complètement exotiques, et c'est un pays qui est très agréable. On a beaucoup aimé, c'est beaucoup moins dense que l'Inde, un peu plus riche aussi, et fait marrant, c'est que beaucoup d'Européens vont là-bas pour faire la fête grave. Et donc ils se retrouvent sur les plages où il y a beaucoup de surf, et le soir ils vont faire la grosse fête, et ça nous est paru très très bizarre quand nous sommes arrivés à Ella, où tout le monde était en petite tenue blanche, et on trouvait ça mais complètement décalé par rapport à notre expérience, donc on a décidé de prendre nos sacs à dos et de partir sur les faire du trek quoi. Okay.
Ouais, ça m'étonne pas que ça attire du monde, vu l'emplacement géographique aussi et certainement le climat. Voilà. Par la suite, Maximilien, t'es parti au Kazakhstan. Et t'as fait Kazakh, Ouzbékistan, Kirghizistan. Déjà, comment s'est passé le trajet du Sri Lanka au Kazakhstan?
Alors, donc le Sri Lanka, pour être très précis, on y allait au milieu de notre voyage en Inde, pour des raisons de visa administrative, on va pas rentrer dedans. On a dû partir au Sri Lanka 15 jours au milieu, ce qui était un bonheur pour nous. C'était vraiment une excuse de pouvoir partir du boulot pendant 15 jours, voir ce pays magnifique. Donc voilà. Mais après, on est rentré en Inde, et c'est d'Inde que je suis après parti au Kazakhstan. Et Bastien, qui allait au nord dans le Ladakh, donc dans l'Himalaya, on avait une bonne partie du chemin, quand même, peut-être 2000 km à faire ensemble pour monter. Et on a fait le choix de le faire en train, alors que la plupart des gens le font en avion. Et c'était très drôle. On a fait 43 heures dans le train. Je peux laisser Bastien raconter un peu l'expérience.
Je peux. C'était très très amusant parce que déjà on a fait le choix de prendre une classe qui était assez bonne, parce que passer 43 heures dans les classes générales, ça devient très compliqué. Et je pense que c'est difficile de pas devenir complètement fou. Donc on était là et une famille nous a rejoint dans les deux lits qui étaient en face de nous. Et c'était très amusant parce qu'ils arrivaient avec une énorme branche de bananier avec plein de bananes dessus, et ils avaient aussi un gros sac avec des noix de coco dedans, et ils ont d'ailleurs proposé pendant le trajet. Et petit élément aussi de culture qu'on a trouvé assez déroutant, c'est que beaucoup de fois ces deux personnes faisaient des rots, mais des rots assez intenses pour marquer leur satisfaction, et avec Max on était complètement désarçonnés.
Et c'est vrai, c'est le genre de trucs qui sont pour nous tellement délirants, et en fait là-bas parfaitement normal, et c'est typiquement ça, le choc culturel quoi. C'est là-bas par exemple, les pieds ont une place extrêmement importante dans la spiritualité, ce qu'on comprend toujours pas vraiment tout à fait, mais quand on touche le pied d'une personne, il faut absolument s'excuser. Il y a un geste particulier que même nous on a pris à force de le faire sans faire exprès, touche l'épée d'une personne sous la table, il faut s'excuser. Un truc comme ça, toucher l'épée de quelqu'un, c'est une marque de respect extrêmement intense. Et pareil, les rots, c'est un sentiment de satisfaction après un bon repas. Si tu rotes, c'est de la politesse pour la personne qui a fait le repas. Et nous, on était à, mais enfin, forcément, avec ce regard un peu décalé, on était là à noter sur 10 les rots de la personne, parce que c'était délirant, quoi. Donc c'est un peu, ça crée des situations un peu drôles quand elles sont pas graves ou irrespectueuses, elles sont drôles et c'est cool.
Okay. Du coup, tu arrives au Kazakhstan. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu l'ambiance, parce que elle est complètement différente de l'Inde, je pense.
Alors exactement. C'est vraiment, je pense que le choc culturel pour moi en arrivant au Kazakhstan était encore plus fort que si j'étais rentré en Europe, en fait, je pense. Parce que j'ai réfléchi, j'ai un peu normaliser le truc après être rentré à Paris, je me suis dit vraiment en fait c'est l'opposé mais total. C'est-à-dire que l'Inde est tellement dense, voilà, il y a 1,4 milliard habitants dans un pays qui est très grand mais pas assez grand. Le Kazakhstan c'est plus grand que l'Inde et pourtant il y a 25 millions d'habitants, donc c'est juste presque 100 fois moins quoi. Et donc c'est extrêmement peu dense, des villes très européennes, très propres, plus propres qu'en Europe, riches, et en même temps en fait il y a un mélange culturel qui est fascinant. Les gens, ils ont des traits plutôt asiatiques, mongols, enfin de turcs, mais d'anciens turcs, disons, donc aujourd'hui plutôt mongols. Ils parlent russe, ou parfois les langues locales qui sont turciques, mais qui ne ressemblent pas du tout aux langues que j'ai vues en Inde. Ils sont musulmans, donc c'est assez différent aussi. On voit des mosquées, on voit des hijabs dans la rue, etc. Et en même temps, une inspiration occidentale, des voitures occidentales, une ville qui est construite comme ça, et une influence soviétique qui est très forte. Donc en fait, ça fait un mélange, mais quand je suis arrivé, moi je suis très intéressé par l'histoire, par les cultures, par les différences géographiques et tout, c'était mais fascinant quoi. Et j'étais complètement choqué par cette, c'est tellement sous-côté, on se rend pas compte de cet endroit qui est vraiment littéralement le carrefour, la définition d'un carrefour de culturel quoi. Parce qu'en plus il y a des gens qui ont été déportés par l'Union soviétique là-bas, des Coréens, des Ukrainiens, donc t'as un mélange mais qui est fou. T'as des communautés allemandes qui vivent au milieu du Kazakhstan depuis 50 ans, qui parlent encore l'allemand. Enfin t'as une sorte de mélange qui est fou et que il y avait en Inde mais de manière très différente. Donc c'est un peu un retour progressif à la vie occidentale, mais en un genre qui n'est pas le même. Donc j'étais vraiment décalé, parallèle à la surface à ce moment-là. Voilà, c'est bon, ma première impression en arrivant au sud du Kazakhstan.
Okay. Suite à ça, le petit trajet en transport continue. Tu passes par l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Explique-nous un peu le trajet depuis le Kazakhstan sur Ferrari.
Alors du coup l'objectif pour moi c'était de rentrer de Bangalore en fait jusqu'à Paris en prenant le plus possible les transports en commun. Au début le but c'était 100%. Malheureusement avec les frontières c'est pas possible. Avec donc la guerre qu'il y avait eu avec le Pakistan, j'étais obligé de prendre l'avion de New Delhi après le train jusqu'à Almaty qui est au sud du Kazakhstan. Et de là, j'ai traversé l'Ouzbékistan en long, en large, qui est un très grand pays, qui est magnifique, qui est plutôt une culture musulmane, l'architecture musulmane qui est très très belle, l'architecture islamique, un art qui est sublime. Faut voir les photos en fait, c'est que ça qui peut nous montrer, mais c'est juste extraordinaire. Franchement, je pense que c'est les plus beaux objets que j'ai vus de ma vie, d'un point de vue vraiment purement esthétique. C'est objectif, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Et après le Kyrgyzstan qui est juste à côté mais qui est très différent, beaucoup plus nature, il n'y a pas de très beaux bâtiments, c'est que de soviétiques, mais par contre la montagne est magnifique, le pays il a plus de 3000 mètres de haut intégralement, t'as des plaines qui sont surélevées, donc la nature est tellement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et là en fait j'ai un pote qui m'a rejoint de Paris et on a fait un grand trajet en road trip, on a loué une voiture, donc là c'était extraordinaire aussi mais infiniment différent. Et après, pour revenir à ta question, pareil, il y a un problème, c'est que l'Azerbaïdjan, qui est donc de l'autre côté de la mer Caspienne, qu'il faut traverser, je pense qu'il faut avoir une carte pour voir tout ça mieux, en fait, hein, peut-être que je parle un peu chinois, mais l'Azerbaïdjan n'accepte pas les touristes qui viennent autrement qu'en avion, ce qui est très dommage, mais j'ai vu que tout le monde était confronté à ça dans la région, tous les autres touristes, donc j'ai dû prendre l'avion, encore une fois, pour arriver en Azerbaïdjan. C'est les deux avions que j'ai pris sur le chemin. Mais voilà, je suis arrivé à Bakou. J'avoue que l'Azerbaïdjan, je n'en ai pas beaucoup vu et j'ai pas adoré Bakou. Il y a un peu un côté Dubaï, mais plus inégalitaire, parce qu'on sait que dès qu'on sort de la ville, c'est beaucoup plus pauvre. Mais Bakou, c'est genre beaucoup d'argent qui est vraiment montré la richesse, etc. J'étais un peu dérangé. C'était pas tout à fait le mode de voyage que j'aime, qui me plaît, en tout cas personnellement. Mais voilà, chacun ses goûts. Et après, la Géorgie, par contre, était absolument incroyable. Une culture très forte, très différente. Vraiment, c'était magnifique. Et là, mes parents m'ont rejoint pendant 10 jours. Donc, j'ai vécu ça avec eux, c'était super. Okay.
Voilà. Ouais, super enrichissant. On va devoir skip quelques étapes parce que, ouais, on n'a pas énormément de temps. Mais du coup, vous arrivez en Europe. Il y a un moment où vous rejoignez aussi. Tu l'as mentionné avant. Donc, en guise de petite dernière question, quel est votre sentiment au moment où vous rentrez après autant de temps de voyage? Qu'est-ce que ça vous fait?
Bah, quand on arrive à la maison et qu'on se pose, on ouvre nos valises et tout, on range tout ça et on se dit waouh, je me suis quand même tapé une déterre monumentale. Parce que on a énormément fait de choses, on s'est levé très tôt, on a vu des choses à ne plus savoir en parler. Et maintenant c'est bon, maintenant je peux revenir à l'EPFL et je peux ouvrir un cahier et faire mes maths et me dire ça va. Pour l'instant je suis rassasié, j'ai vu une grosse partie du monde, j'ai vu des choses et je suis prêt à me poser 2 secondes. Et c'est très apaisant, je trouve. C'est très apaisant.
Et peut-être juste une anecdote pour finir que je trouve assez parlante et un peu drôle. On se baladait avec Bastien à Lausanne après être rentré de ce voyage. Et il y a juste un silence comme ça pendant 30 secondes, on marche ensemble. Et là, de nulle part, Bastien il lâche juste... Qu'est-ce qu'on se fait chier? Et je trouvais ça tellement drôle et tellement parlant parce qu'en Inde, dans notre voyage, il y avait toujours un truc qui se passe. Tu marches pas 5 secondes sans qu'il y ait un câble électrique qui pendouille, sans protection, il y a une vache qui est au milieu de la route, qui fait un accident, t'as des voitures partout. Et là, on marche, c'est la Suisse, il y a du silence.
Il n'y a pas de danger quand tu marches.
Les voitures s'arrêtent au passage piéton. Voilà, c'est vide. Et c'était. Et on s'est tapé une barre un peu en silence pendant 2 minutes, c'était vraiment. Voilà.
Bah, merci messieurs de nous avoir partagé cette expérience insolite et enrichissante. On va profiter de votre présence et de votre expérience par la suite. Mais avant de retrouver Clélia qui nous parlera de la vision du voyage au cours du temps, on vous propose, chères auditrices et chers auditeurs, une petite interlude musicale. Tout de suite, une musique de Anuradha Podwal et Udit Narayan.
Et pour se remettre de ses émotions, voilà un petit interlude sur l'histoire du voyage. Depuis quand voyage-t-on? A-t-on toujours eu cette envie de découverte? Et surtout, comment notre vision du voyage a-t-elle évolué avec le temps? Ces prochaines minutes, je vous emmène avec moi pour un voyage dans le temps. Mettez vos ceintures, accrochez-vous bien, le décollage est imminent. Nous voilà arrivés à la préhistoire. L'homme était alors encore nomade. Voyager pour lui était une question de survie. Il fallait se déplacer pour trouver de la nourriture, pour avoir un endroit où dormir en sécurité. C'est d'ailleurs en voyageant que les hommes ont quitté l'Afrique pour peupler les autres continents. Mais il est déjà l'heure de quitter les chasseurs-cueilleurs. Faisons un nouveau bond dans le temps. Nous atterrissons au milieu du Forum, au cœur de la Rome antique. Entre-temps, l'homme s'est sédentarisé. Il a fondé des civilisations et développé de nombreuses techniques. Les Romains fabriquent des armes en fer forgé, cultivent des champs et érigent d'immenses bâtiments. Mais ne perdons pas de vue ce qui nous intéresse ici, le voyage. L'invention de la roue a révolutionné le monde des transports, permettant des déplacements beaucoup plus rapides. Mais il fallait aussi construire des routes sur lesquelles se déplacer avec ces nouveaux engins à roulettes. On décide de monter dans la première charrette venue, de suivre la voie romaine, cap sur la mer. Car oui, durant l'Antiquité, les transports terrestres ne sont pas les seuls à se développer. Les bateaux envahissent la Méditerranée et favorisent le commerce entre les pays du littoral. Les premières batailles navales éclatent elles aussi. À ce moment de l'histoire, l'homme voyage avant tout pour le commerce et pour la conquête des territoires. Nous voilà d'ailleurs emportés par de gigantesques troupes dans la deuxième croisade. Nous avons encore avancé dans le temps sans s'en rendre compte. Le motif du voyage reste toujours la guerre. Mais cette guerre-ci, elle est motivée par la religion. Les Occidentaux souhaitent récupérer la terre sainte de Jérusalem. Chose qu'ils auront bien du mal à réaliser et surtout à pérenniser. Mais voilà un homme au loin qui, pour lui, la guerre n'est pas une bonne raison de voyager. Marco Polo nous emmène en Asie, commercer avec lui. Il nous fait découvrir des nouvelles odeurs, de nouvelles saveurs, de nouvelles cultures. Des épices de toutes sortes piquent notre nez, de la soie caresse notre peau et des mélodies inconnues parviennent à nos oreilles. Marco Polo retranscrit ses aventures dans le livre des merveilles du monde pour permettre à ceux restés en Europe de découvrir ses péripéties et de voyager avec lui, tout cela sans sortir de chez soi. Et voilà que le sol tangue sous nos pieds, que du bleu à l'horizon. Nous nous retrouvons sur la Santa Maria, direction des terres inconnues. Les bateaux sont devenus plus robustes depuis que nous avons quitté les Romains. Les hommes se sont enhardis grâce au récit de Marco Polo. Et c'est ainsi que nous accompagnons Christophe Colomb dans sa quête de nouveaux territoires à conquérir. Les motivations changent peu, mais le courage grandit avec l'amélioration des techniques et de la connaissance. Jusqu'à présent, l'homme a toujours voyagé pour les deux mêmes raisons, le commerce et la conquête de territoires. Et cela ne semble pas prêt à changer. Si l'on accélère le temps, on peut voir défiler à toute vitesse devant nos yeux l'imprimante de Gutenberg, une machine à vapeur, un train, une ampoule d'Edison, une automobile et même un des premiers avions, sans que rien ne vienne bousculer l'ordre établi. Ce n'est pas du côté des inventions qu'il faut chercher ce qui pourra provoquer le changement dans la vision du voyage. Il faut se tourner légèrement sur votre gauche, se concentrer, plisser légèrement les yeux et vous verrez alors l'instauration des congés payés venir à vous. Après la Première Guerre mondiale, les ouvriers obtiennent ces jours de repos dont ils ne savent que faire dans un premier temps. Mais petit à petit, ils vont s'aventurer autour de chez eux grâce au train qui est désormais utilisé à des fins personnelles et non plus commerciales. Le temps nous emporte encore et on est au volant d'une voiture des années 60, dans les bouchons, sur la route des vacances. Ça y est, avec la démocratisation de la voiture, ce sont les vacances qui se démocratisent à leur tour. Direction la mer, on a quitté la voie romaine pour emprunter la Nationale 7. Le programme, bronzage sur la plage au milieu de tous les autres vacanciers. Du repos avant tout. Le voyage devient un loisir. C'est la naissance du tourisme. Et quelques années plus tard, la diminution des prix de l'aviation offre toujours plus de destinations pour les vacanciers du monde entier. En quelques heures, les quatre coins du globe sont accessibles. Je vous laisse le loisir de chercher les coins dans une sphère, mais c'est un tout autre sujet. Ainsi, à la fin du XXe siècle, une majorité de la population a accès au voyage, bien que des disparités subsistent. Après ce joyeux périple dans le temps, revenons au présent. Aujourd'hui, il nous suffit de sortir notre téléphone de notre poche pour voyager. Partout sur les réseaux sociaux, des images de nos proches ou d'inconnus qui sont partis dans des contrées lointaines. Bien loin du commerce et des guerres d'antan, on voyage à présent pour son divertissement, pour se dépasser, pour se retrouver et parfois aussi pour s'afficher. Et surtout, on voyage beaucoup plus loin. Notre vision du voyage a changé, elle s'est adaptée au monde actuel, amenant parfois des effets négatifs comme le surtourisme. Il en va de la responsabilité de chacun de préserver la liberté du voyage et d'assurer son avenir de manière durable. Sur ce, notre voyage touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'oubliez pas de détacher votre ceinture avant de vous lever. Je vous laisse avec un duo franco-suisse de Solane et Yoa. Elle chante Thelma et Louise, une musique inspirée du film éponyme qui raconte le voyage de deux femmes qui, pour échapper à la violence des hommes, entament un périple à travers les États-Unis.
Partir comme Louise et Thelma, fin de course, bout de route, on lâche rien à part le frein. Je prends la vie dans ma valise, partir comme Thelma et Louise.
Et nous revoilà donc. C'est qu'on ne se lasse pas de vous partager toutes ces merveilleuses anecdotes sur les escapades à l'étranger. Tout de suite, on retrouve Amélie et sa chronique qui se questionne sur les jeunes et la relation au voyage. C'est vrai au fond, pourquoi partir si loin, si longtemps ?
Pour cette chronique, je vous demande un peu d'attention, on va traverser pas mal de paysages en quelques minutes. Dans les gares, on voit de plus en plus de jeunes avec un sac à dos énorme qui les engloutit presque, et derrière, on devine des idées plein la tête. Ils ont 20 ans, parfois plus, parfois moins, et ils partent longtemps, plusieurs mois, parfois une année entière. En Suisse, en 2024, 17% des jeunes prennent une année de transition, contre 9 à 12% il y a quelques années. La pause n'est plus interprétée comme une interruption, mais comme une étape à part entière pour couper de l'intensité des études. Les motivations sont multiples, mais certains grands traits se dégagent. Chercher d'autres rôles, se confronter à d'autres normes, prendre de la distance avec les attentes familiales et scolaires. Le voyage devient un espace de test. Autonomie, adaptation, rapport au risque, rapport au temps. Et puis, il y a une dimension relationnelle. Beaucoup partent pour rencontrer, pour se situer différemment dans le monde. On pourrait résumer ces questionnements à « Qui suis-je dans un autre décor que celui où j'ai grandi ?» Ces questions, je les ai retrouvées dans mon propre entourage lorsque j'ai interviewé mes grands-parents sur leur parcours de vie. Ma grand-mère, issue d'un petit village de Suède, a quitté un environnement familial très uni pour étudier à Stockholm, puis a encore tout quitté, cette fois pour s'installer en Suisse. Je lui ai demandé ce qui lui manquait ici et ce qui lui manquait là-bas. Sa réponse, en résumé, est que plus on découvre de choses, plus on voit ce qui nous manque. C'est-à-dire, élargir son horizon, c'est aussi élargir la zone du manque. Alors, est-ce que voyager expose à une forme d'insatiabilité ? Est-ce que multiplier les mondes rend plus difficile d'en habiter pleinement un seul ? Ces questionnements m'ont accompagnée au Sri Lanka, où j'ai vécu une expérience qui m'a bouleversée. Le Sri Lanka, on en a parlé, c'est un lieu de vacances très prisé ces dernières années. Sur place, ma famille et moi avons enchaîné visites et nuitées chez l'habitant, comme on dit. Et puis, il y a eu ce spectacle, présenté comme traditionnel, mais en réalité calibré pour les touristes européens, complètement stéréotypé. Et je me suis sentie instrumentalisée, mais qui l'est plus, les artistes ou les spectateuristes ? J'ai compris que l'offre touristique n'était pas conçue pour la rencontre, mais pour répondre à une attente extérieure. Et dans ce cadre-là, difficile d'accéder à autre chose que ce que l'on imagine déjà. Et ce décalage, beaucoup de voyageurs le décrivent. On retrouve des paysages extraordinaires, mais une surfréquentation qui dénature ces lieux emblématiques. Ces contradictions dérangent, ou en tout cas me dérangent. On cherche l'authentique, mais on se retrouve dans un circuit touristique. D'où ma question, comment voyager sans simplement retrouver ce qu'on imaginait déjà ? À l'opposé, il y a aussi les voyages qu'on regrette de ne pas avoir faits. L'autre jour, mon grand-père m'a appelé depuis l'aéroport, il partait pour Cuba. À leur retour, ils m'ont dit, lui et ma grand-mère, qu'ils auraient dû faire ce voyage quand ils étaient plus jeunes. Et pourtant, ils ont beaucoup voyagé. Mais celui-ci, ce voyage-ci, les a touchés autrement. Peut-être parce qu'il les a confrontés à des autres réalités économiques. Cette situation ouvre d'autres questions, presque à l'opposé. Est-ce qu'il faut voyager pour ne pas regretter de n'avoir pas assez vu ? Est-ce que voyager expose à vouloir toujours plus ? Ou encore, le voyage nous ouvre-t-il au monde ou crée-t-il une forme de dispersion ? J'espère ne pas vous avoir semé en route, mais après tout, la dispersion fait partie du voyage. Au fond, on a parlé d'élan, de contradiction, d'insatiabilité, de malentendus touristiques et aussi de regrets. Et pour résumer ce mélange, il y a une phrase de Nicolas Bouvier. Dans l'usage du monde, il écrivait « On ne voyage pas pour se garnir d'exotisme comme un sapin de Noël, mais pour que la route vous plume, vous rince, vous essore. » Ce qu'il décrit, ce n'est pas l'aventure spectaculaire, mais un déplacement intérieur. Le voyage comme expérience qui reconfigure. Parfois le parcours d'études, parfois les engagements, parfois simplement le rapport à soi. Bouvier n'idéalise pas, il dit que le voyage transforme.
Merci pour ce sublime texte et témoignage. Sauf erreur, on a quelques questions justement pour nos invités qui ont eu une expérience dans le domaine en termes de voyage aussi décalé du monde, de ce qu'on connaît de l'économie touristique de base. Donc voilà, je vais laisser Amélie poser ses questions.
Oui, alors votre expérience permet justement de confronter ces questionnements. Comment on circule aujourd'hui, ce que l'on voit, ce que l'on croit voir et ce qui nous transforme réellement. Alors, ma première question revient sur votre motivation à être parti. Bastien, tu as parlé de vouloir faire un break après tes études intenses et Max, il me semblait que c'était plutôt une occasion à saisir, du temps à prendre. Et donc ma question c'est, est-ce que c'était l'envie de découvrir un monde, un autre monde, ou est-ce que c'était aussi plutôt de vous découvrir vous-même ?
Alors, je pense qu'au début, c'était une envie de partir, qui s'est ensuite transformée en une envie de se découvrir soi-même, car on a été confronté à un moment à une foule de questions, des questions que tu as très très bien retranscrites, parce qu'on fait face à énormément de scènes nouvelles pour la première fois de notre vie en voyageant, et on se rend compte à quel point notre vie ici ne change peu, donc on est confronté à très peu de questionnements finalement. Et en voyageant, c'est là que les questions viennent et on doit enfin prendre des décisions, et des décisions qu'on fait seul, car on est seul dans ce voyage, on a peu d'exemples autour de nous, on est tous les deux, quoi. Donc il n'y a pas de regard extérieur, il n'y a personne pour juger la décision qu'on prend, mais on doit la prendre, cette décision. Et ça peut être des décisions très simples. Ça peut être combien est-ce que je vais payer la personne qui me conduit en rickshaw. Est-ce que je me bats pour payer un prix raisonnable? Un prix raisonnable, je le dis entre guillemets, car là-bas, un prix raisonnable vaut quelques centimes ici. Mais voilà.
Et moi, alors j'espère que c'est pas une question suivante, mais un truc qui m'intéressait beaucoup et une motivation pour ce voyage que j'avais depuis assez longtemps en fait, que j'avais envie de faire, c'est, enfin, moi personnellement, j'essaie de prendre le moins possible l'avion, et pourtant j'avais envie de voyager. Donc en fait, on pourrait croire qu'il y a une contradiction, et je pense qu'au contraire non en fait, et j'ai voulu, c'est pas montrer au monde, mais simplement à moi-même, montrer que on peut voyager différemment. Et que le trajet, en fait, peut faire partie du voyage autant que la destination. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a poussé dans ce voyage. C'est que ce qui me motivait le plus au début, c'était le retour. Alors, en fait, la destination m'a aussi marqué de ouf, on va pas se mentir, l'Inde. Mais vraiment, ce côté de pouvoir voyager de manière très simple, en prenant des bus, je faisais du stop, le train, etc., tous les trucs qui existent. Ok, on n'est pas forcément habitué ici. Et découvrir en fait ce gradient culturel, c'est-à-dire vraiment peu à peu, tu vois les coutumes qui se rapprochent, tu vois les langues qui sont de plus en plus proches de ce qu'on connaît, des différences culturelles qui sont amoindries, etc. Et je trouve que évoluer là-dedans et ne pas juste être téléporté d'un aéroport A à un aéroport B, mais le voir de ses propres yeux en traversant les frontières à pied, comme je l'ai fait peut-être 15 fois pendant ce voyage, je trouve ça vraiment formidable. Et ce qui m'a le plus marqué, ce qui me rend le plus heureux, en fait, c'est d'avoir pu voir ça de mes propres yeux. Et je trouve ça trop cool. Et c'est clairement un truc... Je sais que dans mes voyages futurs, je prendrai toujours ça en compte. Et je pense que voyager avec la mobilité douce, c'est pas que un côté climatique. C'est aussi une expérience de fou de pouvoir découvrir le trajet autant que la destination.
Je suis vraiment ravie d'entendre ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui partent en voyage et une fois sur place, se déplacent par moyens motorisés. Et autant prendre l'avion pour rester un long moment, je trouve que ça peut être tout à fait raisonnable, autant aller là-bas et polluer donc ailleurs, je trouve ça pas terrible. Mais donc je suis contente, c'est vraiment intéressant. Et là je voudrais partir un petit peu sur ma deuxième question, qui est un peu la deuxième partie de ma chronique, qui est comment est-ce que le voyage vous a transformé, et est-ce que vous revenez plutôt enrichi avec beaucoup d'expériences, ou au contraire un peu essoré, comme disait Bouvier, du coup, par tout ce que vous avez vu, un petit peu... Plus humble aussi.
Alors personnellement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais sur place, c'est l'importance de la communauté en Inde. C'est-à-dire que les gens, ils vivent en famille, et pas une famille nucléaire comme ici en Europe, mais une famille étendue, où il peut y avoir des tantes, la belle famille, tout le monde vit ensemble en communauté et font énormément de choses en communauté aussi. Que ça soit dans les temples, que ça soit en famille, il y a des festivals et des célébrités très très souvent dans l'année dans l'hindouisme, mais je pense aussi dans les autres religions en Inde. Et donc quand j'ai été confronté à ça, j'ai dû me poser une question, c'est est-ce que je n'ai pas une vie trop individualiste? Parce que ici en Europe, on est dans une société très très individualiste, mais là j'ai en ayant ce miroir en face de moi, en ayant ces gens qui vivent de manière différente, je me suis dit, mais est-ce que je vis vraiment comme il faudrait? Et depuis que je suis revenu, je pense que je m'entoure plus de gens, que je fais moins de choses seul, que je suis moins un loup solitaire qui veut prendre la face nord seul. Et je pense que ça a beaucoup changé depuis que je suis revenu.
Ouais, je trouve que c'est un point qu'on a mis du temps à comprendre. Et on y a réfléchi ensemble, tous les deux, avec un ami qu'on a rencontré à Delhi au hasard au début du voyage et qu'on a revu par trois fois après. Et qui nous a vraiment... On a beaucoup parlé avec lui, on a beaucoup échangé. C'était un gros moment d'un point de vue d'échange culturel, parce que lui était plus proche de nous que la moyenne des Indiens, je pense. Il était très éduqué, etc. et ouvert sur le monde, donc c'était plus facile de communiquer. Et en même temps, profondément ancré dans la culture indienne, donc toute cette vie en communauté, etc., que nous, on avait du mal à comprendre. C'était très très... Enfin, c'était vraiment une expérience enrichissante de le connaître parce qu'on a appris beaucoup là-dessus. Donc voilà, t'es d'accord avec ce point. Et moi, personnellement, j'ai aussi appris forcément beaucoup sur moi. Et je pense qu'on a appris beaucoup l'un sur l'autre parce qu'on a été dans des situations parfois de détresse morale et psychologique tellement intense, de la fatigue extrême, une surstimulation mais absolue. Et heureusement qu'on était deux pour qu'on puisse prendre le relais. Et c'est là-dedans, dans ces moments-là, que tu vois les failles de l'autre et comment est-ce qu'il marche. Et je pense qu'on se comprend mieux que... Enfin, infiniment mieux qu'avant, il n'y a pas de débat là-dessus. Parce que, genre, on se comprend sans même forcément se parler, quoi, maintenant. De par cette confrontation.
Et on a dormi 5 mois ensemble.
Dans le même lit.
Bah, passionnant, merci beaucoup pour vos réponses.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Merci pour cette chouette réflexion et ces témoignages. Je pense qu'on va passer sans attendre à l'ensemble musical Buena Vista Social Club et leur musique intitulée Chan Chan. C'est déjà la fin. J'espère que ce Micropolis vous aura été inspirant. On remercie grandement Maximilien et Bastien qui nous ont fait honneur de leur présence. D'ailleurs, vous auriez un petit conseil de fin pour nos auditeurs?
J'ai un petit conseil. Si vous décidez de partir loin ou proche avec un sac à dos, s'il vous plaît, prenez un sac à dos qui n'est pas très grand. Votre dos vous remerciera. Nous avons beaucoup souffert et beaucoup d'objets que nous avons pris avec nous n'étaient franchement pas très utiles. Voilà, merci beaucoup.
Et toujours être prêt à de nouvelles aventures. Franchement, je pense que le voyage était à 10% ce qu'on avait prévu, à 90% de l'imprévu, que ce soit des plans de gens qui nous proposent des trucs un peu aléatoires, des idées qu'on a sur la route. Le plus on voyage, le plus on a d'idées de choses à faire en plus. Donc franchement, allez, le cœur ouvert, l'esprit ouvert, partir sur les propositions et ne pas avoir trop l'attente, parce que dans tous les cas, ce sera différent, mais ce sera toujours mieux que ce que vous avez imaginé. Donc franchement, voilà. Voyagez et prenez le train, les transports en commun, c'est trop cool. C'est beaucoup mieux que partir en avion ou en voiture. Voilà,
voilà. Voilà. Du coup, on se réjouit déjà de vous retrouver mardi prochain à 7h pour notre Café Kawa matinal. Et... tout le meilleur d'ici là. Allez, bye. C'était Banani Banana à l'antenne. Fréquence Banane, il est 19h.
Fréquence Banane, les infos.
Nom d'un cyclone au Sri Lanka, une tempête exceptionnelle en Indonésie, en Thaïlande et en Malaisie ont provoqué des pluies torrentielles et d'importantes inondations qui ont fait plus de 1100 morts selon un nouveau bilan encore provisoire car les disparus se comptent également par centaines. Lundi, la police australienne a annoncé avoir inculpé 4 hommes à Sydney soupçonnés d'appartenir à un réseau partageant du contenu pédopornographique satanique. La police évoque des milliers de vidéos mettant en scène des violences sur des enfants âgés de 5 à 12 ans ainsi que des actes de zoophilie. La commissaire en charge de l'affaire a annoncé que le partage de matériel pédopornographique est malheureusement en augmentation. Suisse. Ce dimanche, l'initiative pour un service citoyen pour toutes et tous n'a convaincu que 16% de l'électorat suisse et a été rejetée dans l'ensemble des cantons. Les refus aussi entre 79% à Bâle-Ville et jusqu'à 87% dans le canton de Vaud. Les cartes des résultats, uniformément teintées de rouge, illustrent une rare unanimité. L'objet a été massivement repoussé, que ce soit en ville ou à la campagne, et on le rappelle, l'initiative visait à étendre l'obligation de service à toute personne de nationalité suisse, homme et femme. Après plusieurs jours d'une opération humanitaire coordonnée entre MSF, les autorités jordaniennes et suisses, 13 enfants gazaouis grièvement blessés ou malades sont arrivés vendredi dans différents cantons. La mission a commencé à la frontière entre la Palestine et la Jordanie, et si 13 enfants ont été évacués cette semaine, ils sont encore des milliers à attendre d'être pris en charge. MSF estime à 16 500 le nombre de personnes nécessitant une évacuation médicale urgente à Gaza, et près de 1 000 sont déjà décédés faute d'avoir pu partir, d'après la coordinatrice de projets à Médecins sans frontières. Un peu plus de légèreté pour terminer ce flash info. La prothèse capillaire gagne du terrain face à la calvitie en Suisse. Moins coûteuse que les implants, plus flexible et désormais plus réaliste, elle séduit une clientèle toujours plus jeune. Les instituts observent une forte hausse de la demande, amplifiée par les réseaux sociaux, où les transformations spectaculaires rencontrent un succès croissant.
Fréquence Banane, la météo.
Aujourd'hui, il fait froid sur Chavannes-Prérenans. Il a fait froid. Entre 0 et 6 degrés, un temps sec et bien gris. Demain, quelques pluies possibles, mais faibles, avec des températures entre 3 et 6 degrés. Jeudi, reste couvert, mais calme, autour de 3 à 7 degrés. Et la fin de semaine sera plus agréable. Vendredi et samedi apportent quelques éclaircies, même si l'air reste froid, entre 1 et 7 degrés. Et dimanche, légère remontée jusqu'à 8 degrés sous un ciel nuageux. En bref, une semaine fraîche, parfois humide, avec quelques belles fenêtres de lumière. Gardez les manteaux!